Galère sur Radio Galère à Marseille et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir. C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Et bonjour, nous sommes le vendredi 8 décembre 2023, il est 12h30, le 8 décembre, et oui, c'est la journée qui a sauvé Lyon de la peste grâce à la Vierge Marie. Non, je m'égare. C'est l'heure des infos choisies, alors nous allons faire une rediffusion parce que là c'est la voix des infos choisies qui a le Covid, c'est les mains des infos choisies qui ont préféré organiser un apéro mix à la soirée, à la radio hier soir et qui ont préparé mais aussi nettoyé toute la matinée ce fabuleux moment. C'est donc le choix d'une rediffusion pour aujourd'hui, donc c'est les infos de mercredi. Mais vous allez voir, c'est de l'actualité chargée, de l'actualité merdique, comme d'habitude malheureusement, sauf que ça a été préparé par un crew de Lyon, le Canu Info du mercredi, qu'on réécoute tout de suite. C'est parti pour 30 minutes de Canu Info, donc voilà, pour vous mettre dans le bain. C'est parti.
Les Canu Info,
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir. Il est 19h passé de 4 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, on commencera par des brèves.
Ensuite, la quadrature du net obtient le code source de l'algorithme utilisé par la CNAF. Il est long ce titre.
Ensuite, scandale dans les crypto-monnaies.
Ensuite, on aura la chronique de Laurent Delabouze.
Et enfin, logements sociaux, la commune à la traîne. Les communes à la traîne.
Revanche de la rillette de porc sur le couscous falafel. Gérard Larcher a balancé un « ferme ta gueule » à l'adresse de Jean-Luc Mélenchon.
L'anarchiste italien Alfredo Bonanno est mort aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Anarchiste insurrectionnaliste, il était connu pour avoir écrit les textes parmi lesquels « La joie armée »,« Qui a peur de l'insurrection ». Il était éditeur aux éditions Edizione Anarchismo. Merci pour mon accent italien. Et a effectué plusieurs allers-retours en prison, notamment pour des accusations niées à de la propagande par le fait et à de la réappropriation armée.
Les 5 antifa qui comparaissaient devant le tribunal de Lyon suite à un superbe murage du feu local d'extrême droite situé sur les quais de Saône en 2018 ont été pas tout à fait relaxés mais dispensés de peine. Cette action avait participé à notamment visibiliser le local auprès du voisinage, facilitant ainsi sa fermeture. Les 5 sont relaxés des faits d'outrage en réunion, mais ils sont condamnés avec dispense de peine pour la dégradation du local. Soulagement pour LE.
3 policiers ont été condamnés mardi matin. Ils ont été retenus coupables d'homicide involontaire pour leur action lors d'une course-poursuite, ce qui a mené au décès de 2 vintenaires, Sabrina et Wassim, en mai 2017. Alors, si l'affaire vous dit rien, c'est parce que c'est un tribunal belge qui condamne les policiers belges. Et rassurez-vous, les JPN n'a toujours pas été dissoute et se charge toujours de blanchir les policiers français.
Allez, petite blague, c'était a priori une bonne couverture pour vendre de la drogue. Ouvrir un salon de coiffure à Gênes, ça justifie des allées et venues un peu incessants, plus ou moins longs, de pouvoir passer du liquide pour une coupe difficilement vérifiable auprès du fisc local. Bref, tout allait bien dans le business. jusqu'à ce que trop de consommateurs de cocaïne venant se fournir dans le salon soient chauves, ce qui a mis la puce à l'oreille des policiers locaux. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'ils le racontent dans la presse, parce qu'on imagine bien que tous les flics d'Italie ne campent pas devant les salons de coiffure en comptant le nombre de chauves. Bref, après une perquisition dans le salon, des balances de précision et 100 grammes de cocaïne ont été découvertes. La prochaine fois, peut-être qu'il faudrait penser à fournir des perruques.
En bonus, on vous invite à aller lire l'article du Point sur le rôle des Antifa dans le trafic de drogue de la place Mazagran. Il vaut son pesant de cacahuètes, mais c'était un peu dommage de faire un truc dessus. C'est à toi ? Non, c'est à moi encore. Le journal La Topette, me demandez pas, je connaissais pas, c'est un truc à... Mince, j'ai oublié le nom. Angers, je crois. Le journal La Topette a révélé qu'en épluchant les sites spécialisés dans le suivi des avions, sur les 6 derniers mois, Christophe Béchu avait effectué 11 vols en avion privé en direction de divers coins de la France, 23 si on compte les trajets à vide. Alors, vous allez me dire, et alors hein, parce que vous êtes aussi nul que moi. Vous êtes aussi nul que moi en Christophe Béchu. Et en fait, bah et alors Christophe Béchu, c'est le ministre
de la
transition énergétique.
Bah oui.
C'est le type qui est censé... Bah d'ailleurs, là, il est parti en jet privé pour faire le truc à la COP 28.
Transition écologique.
J'ai dit quoi ? Énergétique, ouais. Écologique, pardon. Et voilà, je me suis dit, la blague, elle s'écrivait toute seule. Donc, rien de plus à ajouter.
Et quand même, si vous êtes affûté à l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que le chanteur de La Souris Déglinguée est mort. Luc.
Triste semaine pour le rock'n'roll. Ouais, le chanteur de La Souris Déglinguée, le chanteur des rebelles sans cause, des révolutionnaires sans révolution, des révoltés sans organisation.
Tu as une chaîne de télévision et moi une chaîne à vélo. Monopole de la violence contre ma délinquance. Pourquoi as-tu peur quand tu contrôles les médias? Pourquoi as-tu peur quand tu contrôles les médias? Est-ce que tu le sais? Sur ta peau blanche. Samedi soir, la jeunesse s'amuse et claque son fric dans les discos juifs. Et mes copains sont dans la rue, place de la République. Trop arabe ou trop nègre, on est coincé dès l'entrée. On finit par la vengeance, tous nos rêves sans conséquence. Est-ce que tu le sais? Un peu de vengeance sur ta peau blanche.
Et c'était Rock'n'Roll Vengeance de La Souris Déglinguée.
Alors, concernant la mort de Ty Luke, du coup, il était devenu bouquiniste à Paris. Et pour l'organisation des JO, il avait fallu virer tous les bouquinistes. Et apparemment, avec ses problèmes respiratoires, le fait de déménager tous ses gros bouquins, ça aurait pu être ça qui aurait participé à sa mort. Enfin bon, c'est
le frère qui dit Annie Dingo l'a tué.
Voilà.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors, eh bien, spoiler alerte, la CAF cible les plus fragiles. Depuis 2011, la CNAF, alors la CNAF c'est la Caisse Nationale d'Assurance d'Allocation Familiale, pardon, c'est ceux qui chapeautent un peu là, toutes les CAF, utilise un outil statistique appelé Data Mining, qui permet de cibler les allocataires les plus à même de tricher. Et si elle ne s'en était jamais cachée, en l'occurrence, l'algorithme était, lui, secret, et la seule communication de la CNAF à ce sujet était circulée. Il n'y a rien à voir, l'algorithme est neutre. Déjà en 2017, le défenseur des droits s'inquiétait des risques discriminatoires avec cet outil de ciblage. La Quadrature du Net, après une bataille juridique, a réussi à obtenir le code source et l'a analysé. Alors officiellement, le logiciel n'est pas censé débusquer des fraudes par exemple, mais seulement attribuer une note allant de 0 à 1. Plus on se rapproche de 1, plus on a des chances d'être contrôlé. Sur la première élément là, sur le fait qu'il n'est pas censé débusquer des fraudes, pour le coup la quadrature exprime quand même de gros doutes là-dessus. Mais quand même, ce qui pose de gros problèmes, c'est une infographie du journal Le Monde qui démontre que plus notre situation est précaire, plus cela fait augmenter notre note et donc on risque de se faire contrôler. Par exemple, un couple où les deux personnes travaillent de manière régulière et qui touchent un RSA activité ou seulement qui touchent des allocations logement ou quoi, ont peu de chances d'être contrôlés. Mais par exemple, une mère isolée enchaînant les petits boulots, là le risque augmente considérablement. Encore plus surprenant, le lieu de résidence influe également sur la note. Habitant des quartiers, votre note est donc majorée. De même si vous percevez l'allocation adulte handicapé. On voit bien que derrière un outil soi-disant neutre se profile la figure du fraudeur type. Mediapart a interrogé Vincent Dubois, sociologue et auteur du livre Contrôler les assistés, genèse et usage d'un mot d'ordre. Pour lui, rien de surprenant à trouver ce fonctionnement dans le code. Il avait constaté ce qui s'apparente à de la discrimination à l'égard des populations qui ont de faibles revenus dans des situations sociales et familiales instables et qui perçoivent le RSA. Le sociologue explique que la CNAF va organiser son contrôle sur un facteur de risque basé non pas sur un comportement des allocataires à risque, mais sur la nature des prestations perçues. C'est donc plus, en gros, si vous êtes allocataire du RSA, vous avez énormément de chances d'être contrôlé, beaucoup moins que par exemple si vous êtes simplement allocataire des APL par exemple. En gros, plus les situations sont complexes et instables, plus on doit déclarer d'éléments et plus on a de chances de faire des erreurs. Par exemple, dans l'algorithme, une des choses qui majeure votre note, donc qui vous rapproche du chiffre 1, donc qui augmente votre risque de contrôle, c'est le fait de faire des déclarations de revenus régulièrement auprès de la CAF. Et qui est-ce qui fait des déclarations de revenus de manière trimestrielle auprès de la CAF? C'est les personnes qui touchent le RSA. C'est-à-dire que par exemple...
La prime d'activité aussi, c'est complètement con leur truc.
Oui, mais par exemple, pas les appels. Ni les allocations, ni les simples allocations familiales qui sont données si tu as des enfants. En fait, sur tout le panel
les trucs des pauvres. Quoi.
Oui, voilà, exact. Et tout ce qui nécessite un contrôle assidu et déclaratif et de toutes les revenus, c'est sur les personnes les plus précaires. Si la CNAF se défend d'utiliser un outil neutre, pour le sociologue, la technologie permet à l'institution de se cacher derrière des résultats statistiques. Or, il souligne la entre guillemets cohérence entre le public ciblé et la politique ambiante. Pour faire clair, les populations ciblées sont celles qui sont les plus stigmatisées dans le débat public. Pour la Quadrature du Net, ce genre d'algorithme est utilisé par tout un tas d'organismes. Allant de Pôle emploi à l'URSSAF, à l'assurance maladie, on imagine. Bref, tout un tas d'organismes où on espère que la quadrature réussira à les mettre son nez.
Canu Info. Du mercredi.
Alors moi, je vais vous parler crypto-monnaie. Alors j'espère que vous savez ce que c'est, parce que ça va être un peu difficile à expliquer. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est des espèces de
une monnaie virtuelle.
Ouais, c'est une monnaie virtuelle. Voilà, c'est une monnaie virtuelle qui est gérée avec un système de cryptage. D'où le crypto dans crypto-monnaie. Voilà, c'est vrai, c'était super simple, j'aurais pu faire comme ça. Alors, Binance, un géant des crypto-monnaies, notamment, donc il vend notamment des services de gestion de portefeuille, des portefeuilles dématérialisés de ces crypto-monnaies, s'est installé en France en 2021. L'entreprise met en place à partir de 2022 des programmes éducatifs pour sensibiliser les Français aux opportunités de la crypto-monnaie et pour m'éviter d'avoir à trouver une explication à ce que c'est la crypto-monnaie. Entendez par là, mentir comme un arracheur de dents pour faire oublier que toute cette histoire est essentiellement une vaste pyramide de Ponzi consistant à rediriger l'argent en trop des fans de technologie dans les poches de ceux qui ont investi avant eux dans cette technologie et ainsi dans une chaîne illimitée permettre à tout le monde de joyeusement penser s'enrichir sans aucune création de valeur quelconque. On passe sur le monstre climatique que doit être ce machin. Et vous allez me dire, bon bah jusque-là, business as usual chez le capitalisme. Mais là où ça devient rigolo pour notre petite histoire, c'est que le Financial Times, donc un journal financier anglophone, nous apprend aujourd'hui que Binance a utilisé des tactiques agressives pour inciter les gens à utiliser ses services dans certaines zones les plus défavorisées de France. On se retrouve face à une forme d'abus de faiblesse promettant à des pauvres un enrichissement rapide. Et premier problème, ça en France tout le monde le sait, le monopole de arnaquer les pauvres en leur proposant un enrichissement super rapide, c'est la Française des Jeux. Comme souvent quand on pique le boulot à la Française des Jeux, la pratique de communication est particulièrement agressive. Et on est loin des campagnes du loto du patrimoine avec Stéphane Bern là. Donc le principe c'est que le Binance a passé un contrat avec un organisme de formation et les personnes formées devaient se créer un portefeuille sur le site de Binance pour pouvoir obtenir à la fin leur certificat de formation. C'était un certificat sous forme de NFT, donc les NFT c'est des images qui sont sécurisées avec cette fameuse clé de cryptage, sur le même principe des clés de cryptage, donc à la rigueur c'est la seule utilité qui ne soit pas encore une fois une pyramide de Ponzi avec les NFT. Pyramide de Ponzi, c'est un principe d'arnaque où le premier payeur donne de l'argent au deuxième, qui donne de l'argent au troisième et qui permet que les gens aient l'impression qu'il n'y ait pas d'arnaque parce que dans un vaste mouvement de déplacement d'argent, tout le monde a l'impression d'être payé à un moment ou à un autre et le moment où tu te rends compte que tu te fais arnaquer, c'est suffisamment longtemps après pour que le type qui soit tout en haut de la pyramide, il se soit largement enrichi. C'était ce qu'il y avait eu en 2008 là, avec les... Non, pas en 2000. Je ne sais plus comment il s'appelait là. Enfin bon, on s'en fout, c'est pas grave. Donc voilà, donc ils te forçaient à t'inscrire sur leur site pour pouvoir obtenir le certificat de formation à la fin. Un des participants explique par exemple que dans le mois qui a suivi cette inscription, suite à cette formation, il a reçu 17 mails, donc à peu près un mail un peu plus de tous les deux jours. Et donc au moment où il parlait, il en était à son 17e. Et... là encore, à la rigueur, on pourrait dire, bon ben voilà, ils arnaquent les gogos, pourquoi pas. Mais devinez où est-ce qu'ils les ont trouvés, leurs 5400, parce que c'est 5400 personnes qui sont concernées. Eh ben, ils les ont trouvés pauvres formation, ils les ont trouvés au Pôle emploi. Et donc, c'est des demandeurs d'emploi qui ont été envoyés forcés et contraints par Pôle emploi participer à ces formations de Bifinance qui apparemment était surtout une présentation de tous les super attraits du truc. Alors le truc était tellement grossier que le prestataire là dont je vous ai parlé, l'organisme de formation avec qui ils se sont mis en deux mèches, a arrêté le contrat à la moitié du contrat parce qu'ils étaient censés aller jusqu'à 10 000 chômeurs formés, ils en ont formé que 5 400. Voilà. Alors après le Financial Times, vous pourrez aller voir l'article pour ceux qui savent utiliser Google Trad ou qui parlent anglais, parce qu'il y a aussi des histoires de conflits d'intérêts avec Macron, mais j'ai rien compris à ce qu'il racontait. Et il y a aussi une histoire d'arnaque, mais c'est pareil, j'ai rien compris parce que c'est des trucs de marché financier. Donc apparemment il y a un droit particulier, notamment apparemment les trucs n'ont pas l'air d'avoir le droit de faire de la pub ou alors d'une manière en particulier, et ça a pas été respecté, donc j'ai rien compris. Par contre, ce que j'ai bien compris, c'est que ce genre de délit financier, toutes les peines maximales qui étaient citées étaient à chaque fois ridicules, notamment là, cette espèce de truc qu'ils ont fait là, ce machin là, qui est considéré comme grave, c'était 37 000 euros d'amende, je crois.
Et c'était Bernard Madoff, le nom.
Ah, merci Madoff.
Et c'est-à-dire que Pôle emploi ne vérifie pas quelle formation ils proposent, en fait.
Ah non, apparemment ils envoient les gens. Donc en plus, alors après,
je vais proposer une formation à Pôle emploi, je vais les former sur les légumes, et puis
Ouais, a priori. Et puis en plus, ils vérifient ni le contenu ni rien, parce que c'est pas eux qui se sont. Oui, c'est ça, c'est pas eux qui se sont aperçus qu'il y avait un problème. C'est le porteur, enfin, oui. C'est le truc avec lequel coopérait ce Binance-là.
Attention, vous êtes prêts?
Et maintenant, en direct et en mégahertz, voici la chronique de Laurent Delabeuze.
Bonsoir. Je vais commencer par parler un petit peu du classement PISA. Alors non, c'est pas un concours entre la napolitaine et la 4 fromages. Même si ça sent un peu le roussi, la sauce tomate a un goût amer cette année. Non, vous le savez, tout le monde en a parlé. PISA, ça veut dire... Ouais, y a personne là. Y a personne.
Programme international.
Ah, c'est pas mal. C'est pas mal.
Statistiques appliquées au scolaire.
Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, toi, t'es pas mauvais.
C'est le truc qui a monté en flèche depuis que t'as quitté l'école, non?
Attends un petit peu, toi, tu vas me prendre pour ton grade. Alors, non, ça veut dire exactement. Donc, vous t'étais pas loin. Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Ça sert à mesurer le niveau des élèves français et françaises par rapport aux autres élèves du monde. Le
ça
résultat.
Fait pas PISA.
Hein?
Ça fait pas PISA.
Programme international.
Programme international. Suivi des
PISA
acquis.
Et...
des élèves.
Okay,
d'accord.
Mais les élèves, on le dit pas.
Ouais.
Pour une fois que tu suis, toi. Donc le résultat est tombé hier. Incroyable. On est nul. Et on chute plus vite que les autres. Alors pour une fois, c'est pas de ta faute, hein, parce que tu y es plus.
Je t'ai piqué ta vanne. T'es dégoûté.
Alors, à une époque, t'as bien dû le faire chuter quelques années, le niveau PISA, mais je veux pas t'accabler, ça a pas dû durer bien longtemps, vu que le temps que tu y es resté à l'école, ça devait pas être énorme. Bon, les résultats du classement PISA sont catastrophiques, mais pas de panique, notre nouveau ministre de l'Éducation est là, présent, réactif et avec des méthodes révolutionnaires. Hier, dès la sortie des résultats, Gabriel Attal annonçait déjà une batterie de mesures. Il est jeune, moderne et visionnaire. Sa première mesure pour lutter contre la baisse du niveau des élèves de France, c'est donc de l'inédit, et fallait y penser, c'est le...
L'uniforme.
Non, le redoublement. Le redoublement. Alors tant que les élèves n'auront pas le niveau, on va les faire redoubler. Tu vois, heureusement que tu n'y es plus, parce qu'avec un système comme ça, tu y serais encore. Bonne idée, monsieur Attal. On pourra faire les malins avec le reste du monde. Mathéo, en CE2, connaît les fables de La Fontaine par cœur et toutes ses tables de multiplication. Ok, il a 15 ans, mais il mange proprement à la cantine. Autre problème, autre mesure. Le niveau serait en baisse à cause de l'augmentation par les élèves de l'utilisation d'objets connectés de type téléphone portable et aussi, bien sûr, du manque de profs. Gabriel Attal a trouvé la solution. Réduire les temps devant les écrans et embaucher des profs? Non, ça c'est ce à quoi pensent les cons. Monsieur Attal est ministre. Alors voilà ce qu'il a déclaré en grande pompe. La France sera le premier pays au monde à mettre à disposition et à généraliser un outil fondé sur l'IA à tous les élèves d'une classe d'âge. Il y en a chez qui l'intelligence, elle n'est pas artificielle. Hein. Un autre problème, mis en lumière par le test PISA, c'est en France le manque de soutien des élèves par leurs professeurs. Pour ça, pas de mesure. En même temps, ça fait au moins 40 ans que le fonctionnement de l'école française est basé sur l'autorité et le mépris. Et ça fait au moins 2 mandats présidentiels que l'action du gouvernement est basée sur l'autorité et le mépris. On rappelle que l'école, ça sert à former de bons citoyens. Les agressions des professeurs? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme pour l'effondrement du système de santé. C'est à cause de l'islam radical et des immigrés. Enfin, dernier point révélé par cette évaluation scolaire mondiale. C'est le poids de l'origine sociale des élèves sur leur destin scolaire. C'est en France qu'il est le plus marqué parmi les pays de l'OCDE. Et pour ça, monsieur le ministre, réorganisation de la carte scolaire, désenclavement des quartiers, favorisation de la mixité sociale? Non, pas de mesure? Ah mais si, la mesure, elle avait déjà été annoncée, bien avant, bien sûr. Favoriser la mixité sociale, briser le communautarisme, c'était l'interdiction de la baya. Voilà, c'est bon, ça a déjà été fait. Ça, avec la théorie du ruissellement si cher à notre gouvernement, les gamins et gamines des quartiers populaires, tu les obliges à mettre un t-shirt correct, et la culture des gamins des riches rentre plus facilement par les pores de la peau. En parlant d'élèves, celles et ceux de Sciences Po Paris ont manifesté hier. Leur directeur est empêtré dans des affaires de violence conjugale. Ces élèves, qui ont tout compris au fonctionnement du gouvernement français actuel, sont parfaitement dans l'air du temps. Ils et elles sont formés pour ça.
IEL demandait donc la démission du fameux directeur au nom de l'exemplarité. Allez, pour finir et pour essayer de rigoler un peu, le prix de l'humour en politique a été remis hier à Édouard Philippe. Il a gagné avec cette phrase, en réponse à la critique qu'on faisait sur l'étrange couleur de sa barbe et de ses cheveux. La voici. Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Alors moi, je trouve que c'est pas la meilleure. J'aurais d'ailleurs préféré celle qui arrivait deuxième.
Hein ? On avait dit pas le physique, quand même.
Oui, voilà. C'est pas moi. Hein. Je décline toute responsabilité. Mais moi, pour moi, la meilleure, c'est celle qui est arrivée deuxième. C'était celle de Macron lors de ses vœux aux Français. Hein, vous vous en rappelez ? Non ? Qui aurait pu prédire la crise climatique ? Alors, j'en ai profité pour en déterrer quelques autres que j'ai trouvé pas mal dans les récentes. Par exemple, celle de Patrick Balkany. De bon, ouvrez les guillemets.
Je suis pas coupable. Je suis innocent.
Mieux. Je suis l'homme le plus honnête du monde. Il y avait aussi Laurent Berger, chef de la CFDT, qui en avait sorti une pas mal. Les macronistes ne comprennent pas qu'on puisse avoir à la fois un salaire de merde et des convictions. On a eu aussi celle de Manuel Bompard, bien explicite sur le fonctionnement de la France insoumise. Voilà ce qu'il répondait aux critiques sur Mélenchon et la direction de son parti. Le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. Allez, pour le même prix, je vous mets une petite Sandrine Rousseau, toujours à la pointe, concernant le soutien aux plus démunis. Les SDF meurent plus de chaleur l'été que l'hiver. Faudrait pas non plus oublier Nadine Morano, toujours en train d'essayer de nous prouver que l'insécurité, c'est pire qu'avant. On a une recrudescence de violence. Par exemple, le vol des portables à l'arraché. Ça n'existait pas avant que les portables existent. Et enfin, la dernière phrase de Bernard Kouchner, un peu plus ancienne, mais qui résonne de manière particulièrement tragique au vu de l'actualité au Moyen-Orient. Il doit bien rester un angle de tir pour la paix. Phrase qui fait aussi écho à la phrase d'un représentant de la Croix-Rouge au retour de Gaza qui décrit l'enclave comme l'enfer sur Terre, pire que les autres zones de guerre comme l'Ukraine où il s'est aussi rendu. Il prononçait hier cette phrase dont le caractère absurde s'exprime de manière encore plus terrible. Et c'est vrai, il l'a vraiment dit hier. Ici à Gaza, on ampute à tour de bras. Si les États-nations, forme d'organisation qui renforce toujours plus les nationalismes, massacrent sans vergogne les peuples sans État comme les Palestiniens, il ne faut pas oublier la résistance dont ils font preuve et dont on parle moins souvent, résistance, qu'elle soit armée ou civile.
Canu Info.
Eh bien, il y a des fraudeurs qu'on emmerde moins. C'est près de 2/3, 64% pour être exact, des communes concernées par la loi SRU qui fixent notamment des quotas de logements sociaux qui n'ont pas respecté leurs objectifs sur la période 2022-2023. Parmi les 659 communes en faute sur 1031, on y trouve la quasi-totalité des grandes villes, souligne la Fondation Abbé Pierre. La loi SRU oblige les communes en zone urbaine à avoir un taux minimum de 20 à 25% de logements sociaux. Si elles sont en deçà, il leur est assigné un objectif triennal de construction afin de rattraper leur retard. Donc là, c'est la période où on est gentil avec les communes. On dit « Ah là, vous n'allez pas payer une amende tout de suite ». Mais il faudrait penser à combler votre retard. Si elles ne tiennent pas les délais, elles devront donc payer une amende à partir de ce moment-là. Nationalement, la totalité des communes concernées n'ont produit que 60% des logements sociaux qu'elles auraient dû construire. Or, sur les deux précédentes périodes, les chiffres étaient supérieurs à 100%. Les communes rattrapaient donc leur retard plus vite que prévu. Pour la Fondation Abbé Pierre, cette chute brutale est due à deux facteurs. Le premier facteur, c'est la pandémie du Covid-19 qui a mis un frein au chantier, forcément. Mais un second facteur, pardon, c'est la politique gouvernementale très défavorable à la construction de logements sociaux. Tiens donc, les bons et mauvais élèves dans les grandes villes sont... Allez, on se fait une petite liste. Montpellier... Ah, attends, vas-y.
Mais c'est pas une ville, Neuilly, c'est une bourgade.
Alors, Montpellier qui a atteint son objectif, et c'est à peu près la seule grande ville à avoir atteint son objectif. Paris a une grosse production, elle dépasse les 100%, mais Paris arrive toujours un peu à sortir des clous malgré tout, car la ville a une politique de logement dits peu sociaux, qui a donc pour but de stabiliser les classes moyennes et aisées dans la capitale aux dépens des publics qui en auraient le plus besoin. En gros, Paris construit des logements sociaux pour les moins, les plus riches.
Pour ceux qui ont de quoi se loger.
Ouais, voilà. Ensuite, Nice et Boulogne-Billancourt sont les plus mauvais élèves. Les villes ont construit que 13% des obligations légales. Toulon suit avec 19%, puis Marseille avec 38%, Aix-en-Provence 47%, Perpignan 49%, Annecy 81%, Bordeaux 82%, Lyon 86% et Saint-Paul-de-la-Réunion 89%. Et bien évidemment, voilà, Neuilly-sur-Seine, ghetto de riches, jamais pointé du doigt par les médias, à part nous peut-être, avec 1% de l'objectif atteint, mais moins connu quand même, parce que Neuilly-sur-Seine, c'est presque un peu son image de marque qui est là-dessus. Elle est fière de payer ses amendes pour cet non-respect de la loi SRU. Moins connu, il y a tout aussi en la loi, il y a Rambouillet avec 2%, donc Maison Lafitte avec 8%, Vincennes avec 16% et Saint-Maur-des-Fossés 18%. Donc voilà, donc avis aux gens qui ont envie d'aller peut-être taguer.
Donc
communes.
En gros, la PACA et la région parisienne, nul quoi.
Ouais, c'est en gros.
Enfin, sauf Paris, mais Paris, ils trichent parce qu'ils mettent Paris, des riches dans leurs logements sociaux. Et mais donc ceux qui sont hors de la République, on note bien, c'est la PACA. L'Hérault aussi, non c'est... Non, l'Hérault, ils sont
au
bien.
Au contraire, c'était
ouais,
bien.
Non, l'Hérault, ils sont forts.
Ouais, ouais.
Mais Perpignan, c'est quoi c'est,
Perpignan, bah si, Perpignan, c'est dans l'Hérault.
Et ben voilà, ouais. Du coup, l'Hérault.
Perpignan, Toulon, bref. Et à noter que, par exemple, la Fondation Abbé Pierre, dans ce rapport-là, la loi SRU, normalement, légifère aussi les constructions d'air des gens du voyage, d'accueil des gens du voyage. Et alors là, je pense que ce serait... faudrait avoir les chiffres. Et ce serait à peu près la catastrophe. Eh bien, on va se quitter avec une chanson.
Et voilà, on revient en direct de Radio Galère. Ça va être la fin de ces infos choisies avec l'agenda. Alors, très rapidement, venez danser et chanter pour fêter les 3 ans du snack. C'est ce soir, un karaoké, Just Dance et DJ. Et c'est pas rien, 3 ans d'un squat. Ce soir, on cuisine pour le collectif 113 à Manufesten. Le 113 qui réunit des jeunes isolés, exilés et des soutiens. Ce soir également à Bilbabor, le collectif internationaliste Marseille-Kurdistan organise une soirée de présentation et lecture d'extraits de Sociologie de la Liberté, troisième volume des Manifestes pour une civilisation démocratique, écrit par Abdoulaye Öcalan. Et demain, soirée de soutien à Mémoire des Sexualités pour des films au Vidéodrome et une grosse soirée DJ set à la DAR. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.